Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le retour de Laurent Gbagbo ? Laurent Gbagbo sera-t-il bientôt un homme libre ? La semaine dernière, les juges de la Cour pénale internationale ont acquitté l'ancien président ivoirien et ordonné sa libération immédiate. Mais le procureur de la même CPI, de la même cour, a fait appel. Laurent Gbagbo reste donc pour l'instant en prison, au moins jusqu'au 1er février. Or, ça fait plus de 7 ans qu'il est détenu, accusé de crimes contre l'humanité. Les faits qui lui sont reprochés remontent à la séquence présidentielle de fin 2010, début 2011 en Côte d'Ivoire. Période de transition qui allait porter au pouvoir son adversaire Alassane Ouattara, à l'issue d'affrontements ayant fait quelques 3000 victimes. L'hypothèse de sa libération, qui paraît désormais probable, pose un certain nombre de questions. D'abord, va-t-il revenir en Côte d'Ivoire ? Et si oui, pour y jouer quel rôle ? Sachant que la prochaine élection présidentielle est prévue l'an prochain. Et ce, dans un pays qui, s'il a retrouvé une certaine stabilité, semble avoir échoué à mener à bien le processus de réconciliation nationale. Pour les partisans de Laurent Gbagbo, son retour serait justement susceptible de panser les plaies. Pour ses opposants, il risque au contraire de les raviver. Alors la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le retour de Laurent Gbagbo ? On en discute ce soir avec trois invités. Un seul est en plateau à mes côtés ce soir. Il s'agit de Christophe Boisbouvier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à RFI, Radio France Internationale. Vous animez du lundi au vendredi l'émission L'Invité Afrique. C'est toujours compliqué de donner une heure quand on parle de RFI. En temps universel, c'est quels horaires ?
Ah bah je vais vous les donner en heure de Paris, c'est plus simple.
En heure de Paris ?
6h40, 8h40, 13h40.
Alors je précise que vous êtes également journaliste à Jeune Afrique, qui fait sa une cette semaine justement sur Gbagbo, les secrets d'un retour annoncé. Puis vous avez publié, c'était en 2015, Hollande l'Africain aux éditions La Découverte. Notre deuxième invité, lui, est en Côte d'Ivoire, à Boaké, dans la partie nord du pays, Séverin Yao Kwame. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Boaké et vous êtes le coordinateur d'une initiative de dialogue pour la paix en Côte d'Ivoire. Et puis, troisième invité, alors lui est à Bordeaux, en duplex des studios de France Bleu Gironde, c'est Christian Bouquet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite de géographie politique à l'université Bordeaux-Montaigne, vous êtes spécialiste de la Côte d'Ivoire. Je renvoie notamment à votre Géopolitique de la Côte d'Ivoire, publié chez Armand Collin en 2011. Alors commençons évidemment par l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale la semaine dernière. Est-ce que ça a été pour vous, Séverin Yao Kwame, une décision inattendue ?
Une décision inattendue, non, pas vraiment, parce que quand on a suivi un peu la crise et la façon dont le dossier d'accusation a été monté, il est clair que, avec du recul, on se rend compte que tout ça a été fait dans une quasi-impréparation. Donc, en soi, la décision n'est pas surprenante. Maintenant, la grande question, c'est de savoir est-ce que véritablement ce procès a servi à quelque chose à la Côte d'Ivoire. C'est ça véritablement qu'il s'agit. Sinon, pour ce qui est de la décision, elle était plus ou moins prévisible en lien avec les conditions dans lesquelles le dossier a été monté.
C'est d'ailleurs ce que vous écriviez, vous, Christophe Boisbouvier, dans un article, alors je renvoie justement à Jeune Afrique, c'était en février 2017, article intitulé « La galaxie Gbagbo croit en sa bonne étoile ». Il y avait déjà, à l'époque, l'idée que ça allait tourner plutôt favorablement pour Laurent Gbagbo, en tout cas du côté de ses partisans.
Oui, parce qu'on s'est aperçu au fil du procès, à partir de 2016, et surtout 2017, que le dossier d'accusation était fragile, que le bureau du procureur et de Madame Bensouda, qui succédait à Luis Moreno Ocampo, qui était plus dans la justice spectacle que dans la justice de fond, n'avait pas d'éléments solides, et surtout au fur et à mesure que les témoins de l'accusation sont passés à l'audience, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose contre Laurent Gbagbo. Et après l'acquittement d'un autre homme politique africain, c'était le Congolais Jean-Pierre Bemba en juin dernier, on s'est dit que l'acquittement de Laurent Gbagbo devenait possible.
Il n'est pas seul d'ailleurs à être acquitté et toujours emprisonné. C'est le cas également de Charles Blégoudé, l'ancien chef des Jeunes Patriotes, qui s'était manifesté justement pour avoir commis des exactions violentes pendant les troubles de fin 2010, début 2011. En tout cas, les jeunes Patriotes étaient vraiment présentés de cette manière. Pas grand-chose en tout cas dans le dossier. Est-ce que c'est aussi votre avis, Christian Bouquet ? Parce que s'agissant des chefs d'accusation, là, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Quatre chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains.
Oui, ce que viennent de dire mes prédécesseurs est exact. C'est la manière dont les procureurs ont conduit ce procès, avec un angle d'attaque qui s'est rapidement avéré insoutenable. C'est-à-dire qu'il accusait Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet d'avoir monté un plan visant à exterminer en quelque sorte une partie ciblée de la population. Donc ça, c'était extrêmement difficile à démontrer. Il faut quand même rappeler aussi que la CPI travaille toujours dans des conditions difficiles, parce qu'il faut qu'elle se procure des pièces dans l'État concerné, et soit l'État concerné, on l'a vu dans le cas du Kenya, hein, où on avait abandonné les charges contre Kenyatta, l'État concerné soit met de la mauvaise volonté, soit, et dans le cas de la Côte d'Ivoire, n'a pas vraiment archivé toutes les pièces qui auraient permis d'étayer le dossier des procureurs. Donc, l'acquittement de Laurent Gbagbo n'est pas surprenant, pour autant, les crimes restent.
Comment est-ce qu'on peut qualifier d'ailleurs, peut-être pour se remémorer un petit peu ce qui s'est passé, justement fin 2010, début 2011, cette période-là, Christian Bouquet, est-ce que c'était une guerre civile ?
Pas tout à fait, et heureusement, parce que les Ivoiriens ont su raison garder, mais il est vrai que ces 4 mois ont été une période de tension presque chaotique, dans la mesure où les communautés qui s'opposaient n'étaient pas à l'abri, et en particulier les gens du Nord, hein, n'étaient pas à l'abri des exactions, des exécutions extrajudiciaires, des crimes, des assassinats. Il y a quand même eu donc plus de 3000 morts, et cette période-là était une période très noire de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais elle n'a pas sombré dans la guerre civile.
Christophe Babouvier.
Oui, c'est important ce que vient de dire Christian Bouquet. C'est-à-dire que, certes, Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet sont acquittés, mais les morts, ils restent. Il y a 3500 morts entre décembre 2010 et avril 2011. Et pour la majorité, ce sont des civils. Et il y a eu des choses atroces, hein. Il y a eu des gens brûlés vifs à des barrages, etc. Donc, comme le dit la FIDH, pour ces 3500 victimes et pour tous leurs proches, qui sont des milliers de gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'issue de ce procès est quand même une immense frustration. Donc, on peut dire, ok, les preuves n'ont pas été établies, mais voilà, est-ce qu'un jour, a priori non, personne ne sera jugé pour ces crimes qui ont été commis et qui ont tué plusieurs milliers de personnes.
C'est vrai, Yahoua Kouamé, vous qui êtes donc en Côte d'Ivoire, je le rappelle, à Boaké, où vous êtes enseignant-chercheur, est-ce que cette notion de frustration vous semble appropriée pour définir ce qu'est peut-être aujourd'hui le sentiment des familles des victimes de ces exactions de 2010-2011. Est-ce que ça n'entraîne pas aussi, peut-être, ça ne risque pas en tout cas d'entraîner l'idée qu'il y a une impunité pour ceux qui ont commis ces violences ?
Oui, en fait, derrière ce sentiment de frustration qui peut être partagé, parce que il y a un élément qui est important et qu'il faut noter, c'est que pour se battre, il faut être deux. Et dans le cas de la crise ivoirienne, il y avait au moins 2 protagonistes. Il y avait tout ce qu'on a appelé les camps d'Abo, et il y avait ceux qui étaient en face. Et l'une ou l'autre des factions s'est rendue victime justement d'atrocités, d'exactions sur les populations civiles. Donc il est important justement de questionner la possibilité pour les uns et les autres de savoir la vérité. Pourquoi tout ça s'est fait, au nom de quoi et pourquoi. Et donc je pense que la frustration, elle est partagée, parce que même à l'interne ici, il y avait tout un ensemble de questionnements. Les populations espéraient par exemple que le procès de Mme Gbagbo puisse justement permettre de savoir la vérité. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été inculpées ici, qui sont passées en jugement, mais ces procès n'ont pas réussi à établir justement la vérité des faits. Il y a eu toute la question d'un certain nombre de militaires qui ont été ici poursuivis pour justement les faits de crimes contre un certain nombre de femmes qui manifestaient à Bobo. Mais rien de tout ça n'a permis d'établir de façon tangible, de façon lisible les faits.
Oui, parce qu'il faut préciser d'ailleurs, c'est vrai, Yahoua Kouamé, puisque vous évoquez le cas de Simone Gbagbo, qui n'est pas seulement l'épouse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, mais qui est aussi une femme politique, et qui est une femme politique influente en Côte d'Ivoire, qu'elle a été amnistiée au mois d'août dernier, pas seule d'ailleurs, une amnistie qui a bénéficié à 800 Ivoiriens qui étaient soit poursuivis, soit condamnés dans le cadre justement de cette crise du début des années 2010. Comment est-ce que vous analyseriez justement, alors là on sort de l'acquittement de Laurent Gbagbo, mais cette procédure d'amnistie, est-ce qu'il y avait la volonté, par exemple, de la part du pouvoir et du président Alassane Ouattara, justement, d'aller vers une réconciliation en décidant de cette amnistie ?
Je pense qu'il faut situer tout ça dans un contexte assez large, dans la mesure où je pense que ces dernières années semblent avoir mis en évidence que la période de grâce dont jouissait le régime Ouattara a commencé à s'estomper. Il y a un certain nombre de choses qui ont commencé à être produites sur la Côte d'Ivoire, notamment un rapport de l'Union européenne, qui ont commencé à questionner sa gouvernance. Et donc, il y avait tout un effort à faire de la part justement du régime Ouattara de montrer qu'elle était à minima dans un processus de réconciliation, puisque tout le monde questionnait la volonté des uns et des autres d'aller à une réconciliation vraie. Donc, je pense qu'il faut situer aussi justement cette loi d'amnistie dans ce contexte général où justement le régime Ouattara avait besoin de reprendre la main, avait besoin de donner des gages de ce que, vaille que vaille, elle se situait dans un contexte justement d'apaisement, etc. Mais tout ça, je pense, et je le redis, se fait au détriment de la vérité des faits, au détriment justement de ce que les victimes d'un camp comme de l'autre étaient en droit d'attendre. Parce que finalement, c'est comme si tout ça était passé par perte et profit. Et que finalement, au nom d'une réconciliation supposée, au nom justement d'un apaisement voulu, on n'établissait pas les responsabilités. Et ça, c'est grave. Et on risque d'être dans un processus de répétition de tout ça, dans la mesure où, un, on n'établit pas les faits, on ne situe pas les responsabilités, on n'adresse pas les causes profondes. Et donc, on va se retrouver dans une situation de répétition dans la mesure où les mêmes causes ont vraiment produit les mêmes effets.
Alors justement, à propos des victimes, et avant de poursuivre la discussion, je voudrais vous faire entendre un témoignage d'un membre du collectif des victimes des violences en Côte d'Ivoire, témoignage diffusé et recueilli par les journalistes de RFI. Et c'était le 15 janvier dernier.
Vraiment, je suis écœuré parce que ce que la CPI fait, nous, pour nous, on s'est dit quoi? Nous, on n'est pas juge, hein? Ce que la CPI vient de faire là, la CPI n'a pas rendu justice. Parce que c'est des preuves palpables, nous, en tant que des victimes de la crise du pouvoir de Gbagbo, et que la CPI aujourd'hui nous dit que vraiment que Gbagbo a été acquitté. Et donc, finalement, on comprend pas cette justice-là. Ils n'ont pas dit le droit. Vous voyez, un monsieur vive comme moi aujourd'hui, je suis incapable de joindre les deux bouts par rapport à l'handicap que j'ai. Et qui est à la base de ça? Le pouvoir de Gbagbo et de Simone. Nous, on se dit maintenant, qui est à la base de ce qui nous est arrivé? Qui est fautif? Qui nous a tués? Alors, ils veulent que nous, on devienne quoi à la suite de ce qu'on a eu? Dans cette crise, hein, ils veulent qu'on devienne quoi?
Voilà, témoignage diffusé la semaine dernière sur Radio France Internationale. Christian Bouquet et Christophe Boisbouvier, je vais vous poser la même question, et aussi en réaction et à ce témoignage et à ce que disait il y a un instant Séverin Yao Kwame, c'est-à-dire dans la mesure où le travail pour essayer de faire la vérité sur ce qui s'est passé il y a quelques années n'est pas fait, que la justice ne passe pas, est-ce que le risque majeur aujourd'hui, c'est finalement une répétition du passé, même si on sait bien que le passé ne se répète jamais de la même manière, mais en tout cas qu'il y ait à nouveau des tensions, qui soient des tensions fortes et qui tourne éventuellement la violence en Côte d'Ivoire. Christian Bouquet.
Oui, ce n'est pas sûr, hein, parce que derrière le slogan « Réconciliation nationale », je crois que depuis le début, il y a un grand malentendu. Depuis 2011, on a quand même l'impression, et à moins que Séverin Yao Kwame me le démente, mais que les Ivoiriens ont réappris à vivre ensemble. On ne voit plus tout ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire des slogans stigmatisant les Dioulas, des inscriptions, des appels à la radio, des revanches ciblées. On ne voit plus tout ça, on ne voit plus non plus de journalistes assassinés. Je rappelle quand même que la période Gbagbo, avant la crise post-électorale, s'était illustrée par l'assassinat de votre confrère Jean-Hélène et puis la disparition de Guy-André Kieffer. Donc tout ça, on ne le voit plus. On a l'impression qu'à titre individuel, les Ivoiriens se sont remis à vivre ensemble. Alors il reste, le problème, il n'est pas mince, des victimes. Et les victimes sont de deux catégories différentes, il l'a bien dit Séverin, il y a ceux qui ont été victimes des forces pro-Gbagbo et ceux qui ont été victimes des forces pro-Ouattara, pour simplifier. Alors on avait perdu de vue un rapport d'enquête qui a été publié en 2015, le rapport Badjo, qui chiffrait les victimes. 3248 victimes avaient été identifiées, 1452 avaient été attribuées aux forces pro-Gbagbo, 727 aux FRCI, donc les pro-Ouattara, et 200 attribués aux dozos, c'est-à-dire aux chasseurs traditionnels. Peut-être que il faudrait se pencher maintenant sur le détail de ce rapport et faire passer la justice. On rappelle, je pense que Christophe Boisbouvier s'en souvient très bien, que la commission dialogue dialogue vérité et réconciliation qui avait été créé dès septembre 2011, hein, 4 mois après la prise de pouvoir de Ouattara, ne contenait pas le mot justice. C'était dialogue, vérité et réconciliation. Il n'y avait pas justice. Donc il y avait une sorte de faute originelle dans cette manière de régler le problème ivoirien qu'on risque en effet de payer pendant encore un certain temps. Mais je relativise tout ça parce que je crois que ça touche essentiellement les familles de victimes qui, en effet, ont de bonnes raisons d'être frustrées.
Christophe Boisbouvier.
Je serais peut-être moins optimiste que Christian Bouquet sur l'avenir. Je pense par exemple au témoignage de notre confrère Venance Conan, le patron de Fraternité Matin, le grand quotidien ivoirien, qui est inquiet par exemple parce qu'il dit qu'au moment de l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo, dans les quartiers pro-Gbagbo d'Abidjan, il y avait des appels à la revanche contre notamment les nordistes qui habitent Abidjan. Je pense aussi que, comme Christian Bouquet, il ne faut jamais oublier qu'il y a eu des victimes dans les deux camps et que l'une des faute de la CPI, de la Cour pénale internationale, est de n'avoir poursuivi qu'un seul camp, hein, le camp Gbagbo. Alors qu'en effet, il y a eu des massacres commis aussi par les pro-Ouattara. On pense par exemple au massacre de Douekwe en avril 2011, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.
C'est un peu le problème, c'est qu'on a toujours ce qu'on appelle la justice des vainqueurs.
C'est ce qu'Amnesty International a appelé la justice des vainqueurs. Je pense que si demain il fallait refaire quelque chose, il faudrait que ce soit une justice qui ne soit pas instrumentalisée par les hommes politiques. Et de ce point de vue, Luis Moreno Ocampo était très proche des décideurs politiques quand il était le premier procureur de la CPI, trop proche, comme l'ont montré un certain nombre d'échanges de mails entre Moreno Ocampo, Abidjan et Paris, publiés et révélés par Mediapart il y a quelques années. Voilà, il faudrait une vraie justice indépendante.
Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo, d'ailleurs, n'a pas été jugé dans son pays, en tout cas pour les faits, les crimes qui lui étaient reprochés? Est-ce qu'il pouvait y avoir la volonté, par exemple, d'éloigner, parce qu'il est incarcéré à La Haye aux Pays-Bas? D'éloigner du coup le problème et d'alléger un peu un problème politique, Christophe Boisbouvier.
C'est vrai, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été transféré en novembre 2011 aux Pays-Bas, à La Haye. Mais ça pouvait avoir du sens dans la mesure où il était inculpé de crimes de guerre, pour avoir été le commanditaire, hein, l'éventuel commanditaire de tout cela. C'est-à-dire d'être l'homme qui avait donné les ordres. Et si le bureau du procureur avait réussi à prouver cela, ça aurait eu du sens que la Cour pénale internationale s'intéresse à son cas.
C'est vrai, Yahoo Kwame. Ce que disait tout à l'heure Christian Bouquet, c'est qu'il avait quand même l'impression que depuis justement 2011, les Ivoiriens avaient appris à revivre ensemble. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous?
Je pense que, oui, là encore, c'est quelque chose qu'il faut peut-être relativiser. Je pense que le professeur a fait état de ce que, justement, il y a eu, ou il y aurait eu, des appels à la revanche, etc. Je pense que au lendemain de la crise, il y avait justement qu'il circulait dans les rues d'Abidjan l'idée, justement, d'un match retour. Je pense que, vous voyez, ces procès ont judiciarisé à outrance une crise de société dont on n'a pas toujours pris le temps de questionner, là je reviens là-dessus, les causes profondes. Et l'un des facteurs justement sur lesquels on n'a pas suffisamment travaillé, c'est le processus de désignation du chef, qui pose toujours problème. Aujourd'hui, en 2019, avec tout ce qui se passe dans l'ex-majorité au pouvoir du RHDP, on revient justement à la case départ sur le consensus à minima sur les processus électoraux qui doivent nous conduire à la désignation des chefs. Et ça, c'est l'une des causes profondes qui, justement, structure toute la conflictualité et sur laquelle on n'a pas travaillé parce que on était préoccupé par rechercher des coupables, mais on n'était pas préoccupé par rechercher toute cette mécanique sociale sur laquelle on n'a pas suffisamment travaillé pour, justement, trouver de bonnes solutions. Et la preuve est là. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur la commission électorale indépendante, etc., qui donne la preuve de ce que le processus démocratique est lui-même l'un des ferments de la conflictualité.
Ce qui est relativement inquiétant, ce que vous dites, du coup, c'est vrai, Yahoo Kwame, dans la mesure où l'an prochain doit avoir lieu à nouveau une élection présidentielle avec la perspective d'un éventuel retour de Laurent Gbagbo dans le jeu politique qui conduirait, alors si j'ai bien lu les articles liés à la Côte d'Ivoire, à Alassane Ouattara qui avait prévu de ne pas se représenter, à se représenter, et il pourrait même y avoir à nouveau Henri Conan Bédié qui qui a dirigé la Côte d'Ivoire, c'était dans les années 90, si je ne m'abuse, et qui lui aussi, qui a 83 ans ou 84 ans, qui lui aussi pourrait être un nouveau candidat. C'est ça aujourd'hui, enfin en tout cas les perspectives pour la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est Evrard Yahokoamé.
Voilà, oui, vous voyez que depuis la mort du premier chef de l'État ivoirien, le président Félix Houphouët Boigny, toutes les échéances électorales sont des moments de grosse frayeur pour la société ivoirienne. Et aujourd'hui encore, on retourne justement dans ce contexte où les gens ont peur parce que rien n'est clair. Les propos véhéments qu'on a prêtés à l'autre camp en 2010 sont les mêmes aujourd'hui. Je me rappelle que dans le cadre du procès, un des éléments qui a été mis sur la table justement pour structurer ou pour construire l'argument du plan commun, c'était un slogan de campagne qui était « on gagne ou on gagne ». Mais dans le courant de la semaine actuelle, il se trouve qu'on a retrouvé les mêmes propos, mais sous une forme autre, qui est, par exemple, Tchoko Tchoko, on gagne, 2020, c'est bouclé. Et vous voyez qu'on se retrouve justement dans le même contexte. Et finalement, pour l'Ivoirien, c'est lambda, qu'il ne faut pas forcément engager dans un camp comme dans l'autre, c'est que tous les ingrédients sont là pour une autre crise, qui va être tout aussi violente s'il se trouve que, voilà, le match se joue à guichet fermé. Si la France, ça c'est un acteur dont il faut parler aussi, n'intervient pas comme elle a eu à intervenir en 2010. Donc si le match se joue à guichet fermé, avec un M. Soro, avec un M. Bédier, avec un M. Gbagbo, avec un M. Ouattara, etc., etc., qui ont, d'une façon ou d'une autre, les mêmes ressorts sur lesquels ils se sont appuyés pendant ces années de crise, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ça, il est important de le dire, on n'a pas travaillé sur le fond du problème. Et tout est là pour qu'on se retrouve dans une crise nouvelle.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le retour de Laurent Gbagbo? On en discute ce soir avec Séverin Yahokoamé, qui est sociologue et qui se trouve à Boaké en Côte d'Ivoire, avec Christophe Boisbouvier, journaliste à Radio France Internationale, et Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique à l'université Bordeaux-Montaigne et qui est dans les studios de France Bleu à Bordeaux, France Bleu Gironde. Tous les ingrédients sont encore là, tous les ingrédients de la division, nous disait Séverin Yahokoamé. Christian Bouquet, ces divisions, ces clivages au sein de la société ivoirienne, plus ou moins atténués aujourd'hui, ils portent sur quoi? Ce sont des clivages qui sont des clivages ethniques, des clivages territoriaux, des clivages politiques, un peu de tout ça?
Ben, je serais tenté de dire des clivages anachroniques, puisque les trois personnalités dont on parle ont derrière elles 30 ans de vie politique. Et c'est un peu décourageant de voir qu'on va se retrouver en 2020 exactement ou presque dans les conditions dans lesquelles on était en 1990. C'est quand même assez préoccupant. Les clivages, vous avez raison de le souligner, ce ne sont pas des clivages programmatiques. Hein. Si pendant un temps on a pensé que Laurent Gbagbo représentait une forme de gauche africaine, puisqu'il est son parti était membre de l'Internationale socialiste, très rapidement on s'est aperçu que ça n'avait pas vraiment d'application sur le terrain. Les deux autres sont des défenseurs de l'économie de marché qui s'étaient associé en 2005 dans le cadre du RHDP pour battre Laurent Gbagbo. Ce qui risque de se produire en 2020, c'est une autre alliance, un renversement des alliances, parce que apparemment aucun des trois ne peut gagner au premier tour. Or, nous sommes dans un processus où c'est une élection à deux tours. Alors peut-être on pourrait se poser la question.
Alors ça veut dire que, pardonnez-moi justement, ce clivage entre d'un côté, on va dire, programme plutôt socialiste et de l'autre programme plutôt libéral, ça c'est quelque chose qui ne résisterait pas à de nouvelles alliances, ou ce sont les candidats qui ont mis un peu peut-être de libéralisme dans le vin socialiste et inversement un peu de socialisme dans le vin libéral?
On va résumer en disant qu'ils font tous la même chose, hein, parce qu'on est dans une mondialisation qui ne permet pas tellement de nuancer. Ce que je voulais dire, c'est c'est le principe aussi de l'élection présidentielle au suffrage universel direct, qui focalise pendant des mois et des mois, vous voyez bien, on en parle, on est en janvier 2019 et ça n'aura lieu qu'en octobre 2020, qui focalise l'attention sur trois personnalités au risque de cliver le pays, alors que si peut-être on basculait sur un autre système qui était l'élection présidentielle au suffrage universel indirect, en passant donc par des grands électeurs, on dispatcherait l'attention sur autant de circonscriptions qu'il y en a dans le pays. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y aurait peut-être moins de risques d'opposition frontale.
Christophe Boisbouvier, sur la nature des clivages au sein de la société ivoirienne et de la classe politique ivoirienne.
Alors, il y a plusieurs clivages. Il y a un clivage nord-sud qui remonte à très longtemps, en arrière, et notamment à ce concept d'ivoirité qu'a lancé Henri Colombidier quand il était président dans les années 90, sous-entendu les nordistes ne sont pas des Ivoiriens comme les autres. Ce clivage risque de réapparaître, hein, il ne faut pas se le cacher.
C'est au nom de l'ivoirité d'ailleurs que Alassane Ouattara au départ avait été interdit de participer à la présidentielle.
En 2000, absolument. Il y a un clivage de nature sociale qui est souligné notamment par le rapport de l'Union européenne du mois de juillet dernier, qui dit que certes il y a un taux de croissance annuel de 8% qui est remarquable, hein, c'est très important. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'éléphant qui permet d'arroser, si vous voulez, en termes de croissance toute l'Afrique de l'Ouest, donc c'est fondamental, mais qui souligne en même temps qu'il y a une montée de la pauvreté en Côte d'Ivoire, puisque on est en 2017 à 47% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. 47%, c'est encore plus que l'année précédente. Donc c'est dire qu'il y a un vrai problème social, il y a un problème de partage des richesses, il y a un problème de corruption en Côte d'Ivoire qui est souligné notamment par ce rapport de l'Union européenne sur la gouvernance. Et puis enfin, il faut le dire, et ça c'est peut-être porteur pour l'avenir, parce que ça c'est un vrai clivage politique qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de dépasser son clivage à caractère ethnique et communautaire qui l'a plongé dans cette crise, dans cette guerre civile de 99 à 2011 pendant 12 ans. Il y a un clivage politique, notamment autour du positionnement par rapport à la France. Vous avez un Laurent Gbagbo qui, lorsqu'il a créé le FPI dans les années 90, en 1990, du temps d'Oufouette, hein, s'est positionné notamment contre ce qu'il appelait le néocolonialisme et qui s'est présenté comme le champion de la deuxième décolonisation et qui a essayé de ce point de vue. Alors on l'a vu évidemment de façon très spectaculaire en novembre 2004, hein, quand Jacques Chirac a ordonné la destruction de l'aviation de guerre ivoirienne après le bombardement de la caserne française de Bouaké qui avait causé la mort de 10 personnes. Ça, c'est intéressant donc de voir ce positionnement de Laurent Gbagbo qui continue dans ce positionnement. Il est persuadé, par exemple, que s'il a été transféré à la Cour pénale internationale, c'est de la faute de la France, c'est de la faute de Nicolas Sarkozy, etc.
Et ça, c'est pas du tout une attitude qu'a le président Alassane Ouattara.
Et voilà. Et vous avez face à lui un Alassane Ouattara qui ne veut pas rentrer dans ce débat néocolonialisme ou pas, deuxième décolonisation ou pas, qui veut lui être dans le pragmatisme, dans le développement économique et qui va faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent sur le plan économique et qui se veut moins idéologue, si vous voulez, et qui certainement, comme l'ont dit Christian Bouaké
et
Séverin Yahoukwame, sera sans doute obligé, pas certainement, mais sera sans doute obligé de se représenter l'année prochaine face à Gbagbo et Bédier.
Que pensez-vous justement, Séverin Yahoukwame, de ce dernier clivage que vient d'évoquer Christophe Boisbouvier, le rapport à la France et au passé, à la colonisation, pour expliquer aussi certaines dissensions justement au sein de la société ivoirienne? C'est quelque chose qui est important. Tout à l'heure, vous disiez, j'ai peut-être mal compris, mais j'avais l'impression que vous disiez qu'on attendait aussi, enfin, les Ivoiriens attendaient peut-être quelque chose qui vienne de France.
Non, je pense que à ce niveau, il faut distinguer deux choses. Justement, il y a, comme le dit M. Boisbouvier, la question justement du rapport à la France, mais qui est beaucoup plus celle de l'élite. Alors, on a une élite qui a besoin de se positionner, mais en même temps que justement, il y a ce discours néocolonial qui était tenu par l'ex-refondation, il y a tout un ensemble de marchés importants qui ont été concédés à des grands groupes économiques français. Donc, c'est un discours à relativiser. Pour moi, là où se trouve le clivage, c'est un clivage des peurs. Parce que autour justement de ces trois personnalités se cristallisent des attentes du Côte d'Ivoire qui elles-mêmes se nourrissent de peurs. Vous voyez, quand on regarde tous ceux-là qu'on présente comme étant des Bobabou, c'est qui en fait les Bobabou? C'est tout un ensemble de jeunes gens qui n'ont pas connu le miracle oufouessien, qui n'ont pas connu justement cette Côte d'Ivoire dans laquelle ils coulaient du lait et du miel, et qui sont en attente d'une redistribution à minima, parce que le discours qu'on leur a tenu était vivre dans un pays qui est riche. Et ces jeunes gens qui aujourd'hui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'ont jamais pour beaucoup d'entre eux connu ne serait-ce que ce qu'on appelle un bulletin de salaire. Ces jeunes gens-là, ils vivent où? Ils vivent à Yopougon, ils sont diplômés, ils n'ont pas d'emploi, etc. Donc, ça, ceux-là, c'est une attente de Côte d'Ivoire, mais une attente de Côte d'Ivoire, de générosité de Côte d'Ivoire, mais qui est structurée aussi de la, autour d'une peur de vieillir sans jamais travailler, d'une peur dans laquelle justement on est dans un pays sans se réaliser. Autour de la figure de M. Ouattara, c'est tout un ensemble d'autres peurs aussi. C'est toutes ces personnes-là qu'on dit globalement venir du Nord, etc., des pays du Saint-Pantrion, de l'Hinterland, qui eux aussi ont une attente de Côte d'Ivoire généreuse, qui s'ouvre à l'extérieur, qui voilà, permet aux uns et aux autres de jouir de ce qui est là. Autour de Bédé, c'est toute cette Côte d'Ivoire-là qui est nostalgique de l'ère du fouet, etc. Donc vous voyez qu'autour de ces personnalités se cristallisent des peurs de ne pas jouir suffisamment d'un État qu'on contribue d'une façon ou d'une autre à construire. Et donc, je pense que c'est là où justement nos élites politiques ont échoué. Elles n'ont pas su transformer ces peurs en opportunités pour construire un débat politique qui soit cohérent, mais qui soit orienté vers l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, vous voyez que voilà, toute cette lutte politique, elle se structure autour de grands intérêts économiques qui parfois dépassent ceux de l'ivoirien lambda. Et donc, ces attentes-là sont là. Elles ne sont pas forcément bien comprises, bien traduites en programmes, justement, autour desquels fédérer. Et donc, finalement, l'élément qui structure tout ça, c'est l'ethnicité, etc. Donc, je pense qu'on a besoin, nous, aujourd'hui, d'avoir un personnel politique qui réapprend à faire de la politique, qui réapprend à démarcher le citoyen lambda sur autre chose que ses peurs. Sinon, on va se retrouver justement dans le même schéma, où justement, autour de ses attentes et de ses peurs, voilà, chacun joue là-dessus. La preuve, tous les slogans qui sont structurés pour porter la campagne, c'est autour de ses peurs. Vous voyez un peu. Ouais. Donc pour moi, il faut vraiment distinguer les choses à ces deux niveaux-là.
Christian Bouquet, sur la question de la France, quel rôle joue la France aujourd'hui en Côte d'Ivoire et quel rôle devrait-elle jouer à vos yeux ?
C'est un rôle qui est légèrement en retrait parce que avec la mondialisation, les intérêts français sont des intérêts multinationaux. Donc, on ne peut pas dire, comme on pouvait le dire il y a 30 ans, que le rôle de la France était prépondérant. En plus, le tissu économique français, qui était essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises, a explosé au moment des événements de 2004, hein, ce dont parlait Christophe Boisbouvier, lorsqu'il y a eu cette réaction nationaliste lancée par Gbagbo, qui était alors au pouvoir, et on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont quitté le pays. Donc, économiquement, la France est encore présente, mais nettement moins qu'avant. Alors, politiquement, en principe, la France n'a pas à se mêler des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, pas plus d'ailleurs que des affaires intérieures des autres pays. On remarquera quand même une petite chose qui passe aussi parfois inaperçue, c'est que dans le cadre des remises de dettes, le fameux C2D, c'est-à-dire le contrat désendettement-développement, français, c'est plusieurs milliards de dollars qui arrivent chaque année dans l'économie ivoirienne et qui, d'une certaine manière, lient un peu les deux partenaires l'un à l'autre.
Il y a un dernier aspect que je voudrais évoquer avec vous à propos de la Côte d'Ivoire, c'est la dimension régionale. La Côte d'Ivoire a pour voisins le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Libéria. J'ai une carte sous les yeux pour m'en souvenir. Est-ce qu'il y a, dans la mesure où la Côte d'Ivoire, vous le disiez tout à l'heure, Christophe Boisbouvier, c'est une puissance régionale, puissance notamment économique et aussi, j'imagine, politique, mais est-ce que c'est ce qui s'y passe est observé avec autant d'attentes, peut-être un peu fébriles, justement, par les pays de la région, parce que si la situation devait dégénérer en Côte d'Ivoire, ça aurait forcément des répercussions sur ses voisins.
Alors, il y a d'abord une inquiétude sécuritaire, parce qu'en effet, quand la Côte d'Ivoire c'est toute la sous-région qui éternue, c'est-à-dire avec des implications directes sur le Burkina Faso, dont des ressortissants, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de Burkinabés habitent la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez ce que ça veut dire pour les Burkinabés qui travaillent entre Abidjan, Bouaké et Korogo, si demain il y a une grave crise en Côte d'Ivoire. Mais ce que je vous dis compte aussi pour le Mali, pour la Guinée-Conakry, qui sont notamment des principaux pays voisins de la Côte d'Ivoire. Donc il y a une inquiétude sécuritaire et puis il y a une inquiétude économique parce que la Côte d'Ivoire représente 40% du PIB des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, hein, de l'UEMOA. Donc si demain, par exemple, la Côte d'Ivoire est en crise, c'est la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest qui est en crise aussi. Alors sur la présence française, juste un mot si vous me permettez d'ajouter quelque chose. C'est vrai ce que dit Christian Bouquet, hein, Opérateurs économiques français ont quitté à partir de 2004, c'est vrai, mais il reste quand même une présence symbolique française importante et qui n'est pas que symbolique. Il reste d'abord le franc CFA, hein, qui est très décrié aujourd'hui dans un certain nombre de milieux intellectuels africains, mais dont Alassane Ouattara est un fidèle champion. Hein. Ouattara se bat pour le maintien du CFA contre un certain nombre de ses pairs africains. Et il y a la base militaire française d'Abidjan, de Port-Boué à Abidjan, qui est une base à partir de laquelle d'ailleurs un certain nombre de militaires sont déployés vers le Mali et qui montre que la présence française, elle reste forte sur le plan politique et éventuellement militaire.
Christian Bouquet, la Côte d'Ivoire, c'est un important pôle de stabilité ou d'instabilité régionale.
Ah oui, c'est incontestable. Vous avez eu raison de citer les cartes qu'on malheureusement ne peut pas voir sur à la radio. Mais d'abord parce que la Côte d'Ivoire, c'est le débouché naturel des deux pays enclavés qui sont au nord, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso. Et dès que ça commence à bouger, eh bien les circuits économiques sont mis en difficulté. Le fait qu'il y ait probablement plus de 4 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire et depuis très longtemps et qui sont parfois qui occupent des plantations, par exemple des plantations de café et de cacao, et qui seraient mis en difficulté comme ça avait été le cas avant la crise post-électorale. Et puis quand même aussi un pays qui est juste à côté, à l'est, le Ghana, qui lorgne la Côte d'Ivoire en se satisfaisant d'avance des difficultés qu'elle pourrait rencontrer, parce que c'est aussi un gros producteur de cacao.
C'est vrai, Yao Kwame, sur cette dimension régionale?
Oui, sur cette dimension régionale, il y a aussi aujourd'hui, dans le contexte de l'extrémisme violent, à avoir peur, parce que une Côte d'Ivoire s'est stabilisée, c'est justement un terrain de jeu naturel pour toutes ces personnes qui auraient envie justement de donner la preuve de ce qu'elles aussi peuvent produire de la violence. On l'a vu pendant la crise libérienne, il y avait tout un ensemble de chiens de guerre qui, dans les guerres nomades qu'il y avait en Afrique de l'Ouest, sont venus combattre ici. Donc, je crois qu'il ne faut pas ouvrir la voie à l'instabilité parce que ça pourrait être justement un terrain de jeu pour toutes ces personnes-là. Et de l'autre côté aussi, c'est vrai que justement, voilà, on se satisfait de ce que la Côte d'Ivoire constitue un poumon économique fort. Au plus fort de la crise, les autres pays se sont réorganisés. Le Mali, le Burkina, c'est un pays de l'hinterland, ont commencé à se réorienter vers les ports du Togo, de Accra, etc. Donc, c'est clair que cette dimension, elle est importante, en lien justement avec ce que ça peut générer, mais il est clair aussi qu'il faut se rendre compte que, voilà, on est dans des contextes où les gens sont résilients, les autres pays s'adaptent. Mais il est important de se mettre à l'évidence que on n'a pas dans la sous-région intérêt à ce que pendant longtemps la Côte d'Ivoire soit déstabilisée, parce que ça pourrait être la porte ouverte à autre chose.
Un tout dernier mot, Christophe Boisbouvier. Laurent Gbagbo était le premier ancien chef d'État africain à être renvoyé de l'avant la Cour pénale internationale. Quel message, selon vous, son acquittement et sa probable prochaine libération, même si on ne sait pas quand elle aura lieu, quel message ça peut envoyer à d'autres chefs d'État susceptibles, justement, d'être aussi poursuivis par cette course, et l'idée que finalement il ne risque pas grand-chose.
Non, je pense que le message, en fait, c'est les juges. Le plus important à retenir, même s'il y a le côté spectaculaire de cet acquittement, c'est que finalement, il ne suffit pas de faire de la justice spectacle, comme a voulu le faire le premier procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, pour réussir dans ses entreprises. C'est-à-dire que il faut vraiment étayer ces accusations. Il ne faut pas politiser la justice, même si la Cour pénale internationale peut être actionnée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien non, il faut que ce soit un tribunal comme un autre, comme une cour d'assises à Poitiers ou à Bourg-en-Bresse. Il faut qu'elle bosse, il faut que les juges bossent, il faut que le proc bosse. Et c'est ça qu'ont rappelé les trois juges de première instance de la CPI. N'oubliez pas quand même que le proc va faire appel et qu'on ne sait pas ce que va donner. On ne sait pas d'ailleurs si cet appel va être jugé recevable par la Chambre d'appel.
Voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Christophe Boisbouvier, Christian Bouquet et Séverin Yao Kwame, d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez réécouter sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Leïla Saïdi, Fanny Richer, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyre Legras, avec à la prise de son ce soir Élise Leu et nos camarades de France Bleu Gironde. Dans un instant, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte.
Absolument, Arnaud. On va parler de musique ce soir. Hervé Gardette, et de quoi va-t-on parler demain dans Du Grain à Moudre?
La question sera la suivante, faut-il liquider le cash? Disparition des espèces menacées.
Vous retrouvez la forme. Hein.
Hommage à Jérôme Moreau-Marron qui m'a soufflé cet excellent titre.
Ouais, c'est souvent lui qui a les meilleurs. Hein.
N'est-ce pas ?